L'an dernier, à quelques jours de Noël, il était quasi impossible de trouver un sapin auprès des revendeurs ou même des producteurs. Cette année, estime Daniel Laflèche, ce sera à peu près la même situation. Lui-même, seul producteur de sapins certifiés biologiques, refuse depuis quelques semaines déjà de nouvelles commandes. Il faut prévoir la récolte des prochaines années et laisser grandir encore les arbres. Je me suis rendu sur sa plantation. Monsieur Laflèche, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Monsieur Laflèche, là, c'est parmi les derniers arbres que vous coupez cette année. Là, vos livraisons sont pas mal complétées.
Là. Oui, tout est terminé. Là, ça va être le temps de rentrer à l'intérieur, puis réparer les outils, puis ramasser les branches.
Et vous préparez pour la plantation au printemps.
Ah, ça, c'est sûr. Tout à fait. Il faut absolument que tout soit prêt, parce que quand ça part rapidement. Fait qu'écoutez, rentrons à l'intérieur. On va s'installer à la chaleur, même s'il ne fait pas très froid. Rentrons. Daniel Laflèche. Je suis producteur de sapins à Stansted Est.
Des sapins, mais des sapins un peu particuliers, là. Il n'y en a pas beaucoup qui font du sapin biologique.
Non, je suis le seul à en faire au Québec, à ma connaissance, et au Canada. Il y a des gens qui font de la culture raisonnée, naturellement, où ils vont faire des sapins avec, en utilisant le moins possible de produits chimiques. Mais ceux qui ont une certification, comme la mienne, Écocer Canada, je suis le seul.
C'est quoi l'avantage de faire du sapin biologique? C'est pas pour consommation humaine. Considération environnementale plus globale?
Et c'est tout à fait ça, parce que moi, quand j'ai acheté la propriété ici, naturellement, c'était fait au niveau conventionnel. Et quand j'ai fait la première année, je me suis rendu compte ce qu'il fallait faire pour avoir des beaux sapins, avec les arrosages et le Roundup et tout ce qui va avec. Je me suis dit, c'est pas vrai, je vais pas faire ça. C'était pas dans ma nature trop tôt. Fait que la deuxième année, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais essayer, moi, de faire des sapins biologiques. Ça n'existait pas. Donc, ça a été pour surtout au niveau de l'environnement. Et je suis aussi apiculteur. Fait que naturellement, ben comme je fais des abeilles, puis qu'on sait que la problématique avec les abeilles n'est pas reluisante, disons, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire du bio. Puis naturellement, ben il n'y avait pas d'agronome qui pouvait m'aider ben parce que je te le fais en faire. Donc, j'ai, au fur et à mesure, travaillé sur des techniques de plantation de fleurs entre les rangs, du trèfle, du lotier, des fleurs comme ça, qui sont des plantes mellifères pour les abeilles. Puis à ce moment-là, je me suis dit, quand les trèfles vont passer par-dessus, puis que les fleurs vont sortir, bien, quand les abeilles auront utilisé ce qu'ils ont besoin, de nectar et pollen, je pourrais couper, puis j'aurai une deuxième coupe encore parce que le trèfle refleurit. Fait que j'aurai une possibilité de faire ça. Fait qu'à ce moment-là, j'ai laissé la verge d'or, qui est la nourriture par excellence pour les abeilles en fin de saison. Je l'ai laissé, ce qui est finalement un calvaire pour les agriculteurs, et pour moi, c'est bénéfique. Fait que donc, j'ai commencé à travailler là-dedans, et pour me rendre compte que finalement, j'étais capable de faire des arbres qui sont aussi beaux, sinon plus beaux. Puis je faisais ça ma journée en me disant que j'étais pas mal plus content de ne pas avoir eu de produits chimiques.
La première coupe de trèfle en particulier que vous faites entre les rangs, ça vous sert d'engrais vert sur place même?
Tout à fait. La plupart des fleurs que j'utilise, naturellement, il y a de la moutarde aussi qu'on peut utiliser. Il y a plein de plantes qui sont bonnes pour les abeilles. Et ça me sert effectivement d'engrais vert, qui est un engrais vert qui va se décomposer plus lentement parce que, naturellement, je ne retourne pas la terre entre les rangs. Les arbres étant, bon, 7 à 8 pieds, les racines finissent par se toucher. Alors, c'est sûr que si on passe un rotoculteur là-dedans, on va abîmer les racines. Donc, c'est tout simplement la coupe. C'est comme la chaume, finalement, quand on fait de la pelouse. Ça se décompose au fur et à mesure dans l'hiver. Puis l'année d'après, bien, on part.
La croissance des arbres, est-ce qu'elle est plus lente en culture biologique?
Elle n'est pas plus lente du tout. Puis d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Fait que j'ai demandé au MAPAC, on m'a donné un coup de main avec Dominique Choquette et Julie, des aides incroyables. Alors, on a fait des tests sur des sections. On a préparé du conventionnel et des sections dans lesquelles on faisait du bio. On a fait ça pendant 3 ans pour se rendre compte qu'il n'y a absolument aucune différence entre la longueur des bourgeons ou des aiguilles ou la couleur des arbres. C'est tout à fait la même chose. La seule grande différence, c'est qu'au lieu de mettre des produits chimiques, bien, on met de l'engrais de poulet en petits grains. Et c'est ce que j'utilise pour les arbres.
Pour ce qui est des arrosages, normalement, en saison de croissance, c'est surtout au moment du bourgeon, si je ne me trompe pas, qu'il faut surveiller les insectes, la tordeuse, bon, etc., etc. Vous réussissez à contrôler ça comment? Parce que il y a bien des gens qui vont vous dire un petit arrosage chimique et c'est réglé, là.
Oui, bien tout à fait. C'est sûr que le plus grand ennemi, finalement, du sapin, à part les sécheresses qu'on connaît maintenant, puis les gels qui sont tardifs, c'est le puceron. Et le puceron, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'attaquer aux bourgeons, puis les aiguilles vont crochir un peu. Alors, c'est sûr qu'il y a un pourcentage, il y a toujours un pourcentage où les producteurs vont dire, ben moi, à 10 % ou à 7 % ou à 12 % j'arrose. qu'il y en a qui n'en a pas, j'arrose. Il y en a aussi qui font ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un savon qui s'appelle le savon Safer. C'est le seul savon qui est accepté par Ecosia Canada. Et j'ai fait des tests là-dessus. La grande différence, et cette année, ça a été assez incroyable, parce qu'on a descendu beaucoup, beaucoup, beaucoup le pourcentage de pucerons dans la plantation. Sauf que ça avait quelque l'expérience, parce que normalement, les gens, quand ils arrosent au canon. Un canon, c'est une espèce de machin derrière le tracteur avec un gros ventilateur qui va pousser ça à une centaine de pieds plus loin. Et on fait dans une section 2-3 allers-retours, c'est fini, on n'en parle plus. Moi, je peux pas faire ça parce que le savon Safer, il ne tue pas dans l'air comparativement aux autres qui tuent vraiment l'insecte, il tue tout. Au contact, et il n'y a même pas besoin de contact à quelque part. À l'époque du diazinon, c'était le gaz qui était émis. Alors, on tuait tout ce qui était insecte. Alors, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je passe avec une rampe pour arroser par en dessous de la branche. Et c'est beaucoup plus long parce que là, il faut que je fasse chacun des rangs. Donc, c'est beaucoup plus de travail que d'arroser 3-4 fois, puis on n'en parle plus. Parce que le puceron se cache en dessous. Fait que si j'arrose au canon puis qu'il ne touche pas, ben c'est de l'argent aux poubelles, finalement.
Donc, c'est une expertise que vous avez développée avec l'appui de certains spécialistes au MAPAC qui, eux-mêmes, acquéraient une expérience dans la production de sapins biologiques, là, parce que c'est tout nouveau, là.
Bien, tout à fait. Fait que c'est ça qui était intéressant parce que, naturellement, surtout au niveau des fleurs mellifères qu'on a plantées entre les rangs, bien, naturellement, les gens du MAPAC venaient avec des carrés dans lesquels ils vont calculer combien de trèfles ou de quoi que ce soit a poussé à l'intérieur pour voir quelle est la différence entre ça puis du chien-dent ou je ne sais trop qui était déjà là. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont appris en même temps que moi, finalement, sur le tas, pour se rendre compte qu'effectivement, c'est possible d'en faire. T'sais, on a au moins prouvé que c'est possible de faire des sapins qui sont aussi beaux avec moins de déchets, moins de résidus.
Et pour les consommateurs, c'est quoi l'avantage de se dire « j'achète un sapin biologique » C'est pour contribuer à la cause environnementale?
Bien, tout à fait. Ça l'est. Puis je vous dirais que le gros avantage que j'ai aussi à ce niveau-là, qui est, quand j'explique aux gens, c'est le fait que j'aide les abeilles. Ça devient quelque chose de très intéressant parce que au niveau de la faune, je veux dire, le fait d'avoir autant de toutes sortes d'herbes qui poussent de façon naturelle dans nos champs, puis que moi, je le détruis pas, cette herbe-là est là pour une raison. Hein. Ça n'a pas été là, ça n'a pas été planté là pour le plaisir. Alors, c'est sûr que tous les autres insectes qui peuvent venir se nourrir de toutes ces autres plantes-là, c'est bénéfique, c'est tout à fait bénéfique. Et aussi, naturellement, le fait que ces sapins qu'on va rentrer dans la maison avec des enfants, parce que Noël, c'est la fête des enfants surtout, on n'a pas à s'inquiéter. On se dira pas, bien, si les aiguilles tombent au sol, puis que l'enfant, pour une raison X, il en mange un ou deux, ou il touche avec les mains, puis bon, il y a des résidus de pesticides, c'est pas intéressant. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens achètent. Et naturellement, il y a toute la vague d'acheter local, acheter biologique. Et c'est sûr que quand on dit aux gens, mes sapins sont biologiques, ils m'ont dit, bien, moi, mes sapins que j'achetais, ils étaient naturels. Mais il y a une différence entre naturel et biologique. Une carotte biologique et une carotte naturelle qui est dans un jardin conventionnel, c'est pas la même chose. Oui, la goutte à peu près la même chose, mais c'est pas la même substance, finalement. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle les gens vont venir acheter un sapin chez moi. Et ça monte d'année en année. Les gens l'entendent parler, puis d'année en année, ça augmente.
Vos collègues producteurs de sapins ou d'arbres de Noël, est-ce qu'ils vous regardent un petit peu de travers?
Bien, je vous dirais que non, pas nécessairement. Bon, je suis peut-être un peu l'original dans le dans l'eau. Je ne sais trop, je n'en ai jamais vraiment entendu parler. Sauf que il y a de plus en plus de producteurs qui rencontrent des problématiques qui sont les miennes aussi. C'est-à-dire que les sécheresses qu'on connaît, les gels tardifs, cette année en Beauce, il y a plein de gens qui n'ont pas pu vendre leur sapin parce que les bourgeons ont gelé complètement. Les feux en Oregon, les sécheresses au Maine qui ont fait qu'on a une demande incroyable pour les sapins. Mais les gens ne regardent pas ça comme ça. Au contraire, je vous dirais que j'ai parlé à 2-3 d'entre eux à un moment donné parce qu'on se rencontre dans différentes associations, quoi que ce soit. Puis certains se disent, bien, c'est peut-être pas si fantastique que ça, finalement, le Roundup, d'enlever tout ce qui est herbe autour du sapin. Parce que quand il arrive une sécheresse puis ton petit sapin est en plein soleil pendant 15 jours, il n'aime pas ben ça. Tandis que moi, il est couvert par de l'herbe. Donc, oui, il va prendre plus de temps à pousser, sauf que la sécheresse du sol va être beaucoup moins grande chez moi. Fait qu'il y en a qui commencent à se dire, bien, peut-être que finalement, on va peut-être commencer à regarder des façons de travailler différemment. Et ça va être de pire en pire. On le sait, avec le changement climatique, il va falloir que les gens s'adaptent. Puis quant à s'adapter, pourquoi pas le faire au bénéfice de la planète, finalement.
La saison de récolte, si on veut, ou de coupe des sapins, bien, ça s'achève. On est début décembre. Vous avez réussi à remplir toutes vos commandes ou vous auriez eu davantage de sapins matures ou prêts, là, de bonne taille, vous auriez pu les vendre aussi?
Bien, je vous dirais qu'honnêtement, là, j'aurais pu tout vendre puis plus avoir aucun sapin sur ma terre. c'est pas compliqué, la demande est tellement énorme. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui m'appelait pour me demander une remorque remplie de sapins. Puis une remorque, bien, c'est 600-700 sapins. Donc, ça va très rapidement. Puis moi, je ne suis pas un très gros producteur. Donc, à ce moment-là, j'aurais pu vider complètement, ce que je ne veux pas faire, parce que je ne veux pas dire à mes clients dans 3 ans, là, j'ai plus d'arbres, puis il va falloir qu'on revienne dans 2 ans après. Là, ça devient difficile à ce moment-là. Fait que j'ai été obligé de réduire pour me garder un nombre de sapins pour ce qui est du bio puis de l'autocueillette, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent faire de l'autocueillette aussi, parce qu'ils entendent parler, parce qu'ils sont dans le coin. Et quand les gens viennent pour faire de l'autocueillette, bien souvent, ils vont venir pour chercher 4 ou 5 ou 6 sapins pour le beau-frère, pour la belle-sœur, pour quoi que ce soit, parce que ça n'a pas de sens d'aller chercher un sapin à partir de Montréal, venir en Estrie pour venir chercher un sapin biologique, s'en retourner, là, au bout de l'essence, ça marche pas.
5 ou 6, ça vaut la peine?
5 à 6, bien, au moins, ils se disent, OK, là, au moins, ça vaut la peine, puis j'encourage le producteur qui fait du mieux à la planète, finalement.
Et donc, bon, une bonne saison pour les producteurs. Il y a encore des gens qui disent, bon, pénurie de sapins. On manquera quand même pas de sapins sur le marché, là.
Bien, je pense qu'on va finir, oui, par en manquer. Un peu comme l'année passée où il y en a manqué, effectivement, parce que les gens appelaient. Moi, les gens, l'année passée, m'appelaient. On était rendu au 15 décembre, à savoir si j'avais des sapins encore, parce qu'il n'y en avait plus, puis encore des gens qui en demandaient. Donc, il y a eu une pénurie l'année passée. Et cette année, elle risque d'être encore plus grande, parce que c'est pas juste la problématique américaine au niveau du climat, puis les feux, puis ce que tu voudras. C'est aussi, comme je disais tantôt, le gel qu'on a eu. Il y a des producteurs qui n'ont pas pu sortir d'arbres de leur plantation, donc ça fait beaucoup moins d'arbres sur le marché. Puis les Américains étant friands de sapins puis de gros sapins, puis c'est un marché qui est payant, bien c'est sûr que la plupart des gens vont envoyer leurs arbres d'abord aux États-Unis, puis ici, bien, on risque d'en manquer, finalement.
Là, on en voit dans les étals, il y en a encore, mais la pénurie va se faire sentir là, peut-être à partir du 10-15 décembre.
Oui, sûrement, puis je vous dirais que souvent, bien, les gens qui ont fait les réservations, moi, j'ai jamais vu ça, les gens me faisaient des réservations il y a 2 ans. Et là, la plupart de ceux à qui j'ai vendu m'ont rappelé pour me dire, écoute, je te fais tout de suite des réservations pour l'année prochaine. Ils ne veulent pas attendre. Avant ça, normalement, bien, ça se faisait pendant l'hiver, après, là, au printemps, bon, que je vais t'en prendre le temps. Puis là, bien, la problématique aussi qu'on va rencontrer, c'est que les bourgeons qui ont gelé dans les plantations, bien, il y a aussi les petits que nous, on va chercher dans des gens qui spécialisent dans la plantation, qui préparent des transplants. Donc, ces transplants-là, aux autres aussi, ils ont gelé. Donc, il va en avoir moins sur le marché de transplants. Et il y a aussi toute la réalité du fait qu'en 2012-2013, le marché n'était pas terrible. Et ce qui est difficile pour nous en tant que producteurs, c'est de prévoir le marché. Quand on plante un sapin et qu'on attend 10 ans avant de le récolter, bien, moi, j'ai aucune idée présentement aujourd'hui, dans 10 ans, le marché, où est-ce qu'il va être. Alors, il y a 10 ans, les gens auraient été plantés parce que le marché était complètement au sol. Et là, maintenant, il en manque.
Ça veut dire que vous, par précaution, vous n'avez pas le choix. Va falloir que le printemps prochain, vous continuiez à faire des plantations pour toujours régénérer votre bassin, votre volume d'arbres qui vont être à maturité ou prêts pour la coupe pour des arbres de Noël.
Ben oui, absolument, parce que là, il faut sortir notre boule de cristal et dire, ben, ça va être comment dans 10 ans? Je vous dirais, j'ai peut-être un avantage de mon côté. Comme je suis seul à produire du bio, ben je peux planter et je pense que je vais être capable de les vendre. Pour le reste du marché, ben ça, personne ne le sait. Pour ceux qui font du conventionnel, c'est plus difficile, ça.
C'est peut-être un secret d'entreprise, j'insiste pas plus que ça, mais vous avez combien de sapins?
J'ai une possibilité de faire 60 000 sapins, moi, ici. Mais je vous dirais que je suis plus dans le 30-40 000, à peu près, que je replante naturellement par rapport aux ventes que je fais.
Donc, vous avez une rotation globale là, sur 30 000 plants de sapins.
À peu près. Je vous dirais que je suis un peu moins, mais comme le marché, comme le bio que j'ai commencé il y a 3-4 ans à vendre, prendre l'envol, ben je me dis, OK, ben, on va planter plus. Parce que moi aussi, j'étais un peu sur les freins. Je me disais, oui, mon idée est intéressante, puis je suis heureux là-dedans. Mais est-ce qu'il va y avoir une demande? Et la demande, elle semble être là. J'ai maintenant des gens qui achètent à Montréal, puis qui livrent dans les maisons directement. Donc, ça devient aussi intéressant à ce niveau-là.
Il les livre pas garnis de boules de lumière, non?
Pas pour l'instant, mais apparemment, comme ça se fait à New York. À New York, on fait ça pour... Ah oui, tout à fait, les gens vont amener le sapin à l'étage que vous voudrez, puis ils vont le monter, puis ils vont le décorer, puis ils vont enlever les boules après ça, puis ils vont le ressortir. Je vous dis pas combien ça coûte.
En dollars américains en plus?
Ah oui, en dollars américains. Fait que ça va être assez payant. C'est un marché qui va devenir lucratif. Ce qui arrive aux États-Unis, la plupart du temps, hein, nous, on se trouve 2-3 ans après, que tout d'un coup, il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est intéressant ».
Un arbre déjà tout garni.
Un arbre tout garni avec les boules. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. On va vous le monter. Il y aurait juste les cadeaux à mettre en dessous. Ça, je ne sais pas s'ils ne feront pas des ententes avec Amazon pour envoyer les cadeaux directement.
D'accord. Bien, Monsieur Daniel Laflèche, merci beaucoup. Bonne fin de saison. Là, vous êtes un peu dans les derniers moments de la récolte, là. Mais bonne fin de saison et bon préparatif pour votre saison de plantation qui s'en vient. Là.
Bien, merci infiniment.
Ici Lionel Levac. Un sapin biologique, un caprice, non, un choix pour l'environnement. Pensez-y pour l'an prochain et réservez-le. Au revoir.